beaucoup. Bonjour à tous. Ça marche? Non, ça c'est pour après.
Oh, oh. Bien, eh bien, c'est une joie de nous retrouver pour une semaine qui commence aujourd'hui et qui est sous le signe de la, si on ose dire, de la stratégie d'évangélisation Turning. Mais je ne vais pas d'emblée et longuement m'étendre sur Turning lui-même, un peu, oui, quand même, mais je voudrais le prendre par un biais plus inattendu pour nous parler ce matin. Seigneur, nous demandons que nous tous ici, en tant que communauté, en tant que personne aussi individuelle, mais encore plus en tant que communauté, en tant que membre du peuple de Dieu en Suisse romande, nous soyons tous dans toutes les églises où l'on s'engage dans cette action, nous demandons d'être visités par toi et plus que visités, habités en permanence par toi et que tu nous touches directement, toi-même. Nous avons confiance, comme nous l'avons chanté. Nous savons que tu t'occupes de nous et nous sommes même dans la joie et l'assurance parce que tu as tout préparé. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. Bon, je vais d'abord prendre juste deux versets dans le livre d'Agée qui pourraient nous sembler un peu étonnants et que je fais précéder par une citation du pasteur Bill Johnson, vous savez, celui qui est le pasteur principal en Californie de l'église Bethel. Il a dit ceci. Il a dit, nous ne sommes jamais pertinents, nous chrétiens, parce que nous reflétons la culture autour de nous dans le monde. Non, nous sommes pertinents quand nous sommes devenus ce après quoi le monde soupire. Nous sommes pertinents quand nous sommes devenus ce après quoi le monde soupire. Et cela peut donner un éclairage à ce verset qu'on trouve dans le prophète Agée, qui dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les continents. J'ébranlerai toutes les nations. » Et l'objet du désir de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Oui, c'est vrai qu'il est sur le PowerPoint, donc on peut lancer la première diapo, et puis ensuite le deuxième, parce qu'on les a passés, juste qu'ils soient mentionnés, voilà. Ouais, moi, je ne les vois pas bien, mais je fais confiance. Voilà. Et puis le deuxième. Et. Oui, voilà. Donc, vous avez cette citation en haut. Certaines traductions disent encore un peu de temps, etc. Je ferai venir les trésors de toutes les nations. Et je remplirai de gloire cette maison. Bon, on peut traduire comme ça, avec certaines traductions. Il semble que ce serait meilleur de dire, comme c'est écrit ici en haut, l'objet du désir de tous les peuples, de toutes les nations, viendra et remplira de gloire cette maison. On pourrait se dire, c'est quoi l'objet du désir de tous les peuples? Eh bien, justement, cela rejoint ce que dit le pasteur Bill Johnson. En fait, il s'agit simplement de la présence de Dieu, de Jésus-Christ, de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce à quoi le monde aspire. Alors maintenant, je prends aussi un passage dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 4. sur quoi je vais démarrer le message, qui dit donc ce que, dès que le jour parut, donc à l'aube, il sortit, donc il s'agit de Jésus, et il alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, mais afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. On va détailler un tout petit peu cela. Voilà, le Seigneur, on peut mettre la slide suivante là, voilà. Le Seigneur avait l'habitude de sortir souvent avant les autres gens, alors que le jour pointait à peine. Et ils sortaient du lieu où ils habitaient là, souvent c'était Capernaum, mais peu importe, ça pouvait être n'importe où. Et là, Jésus, tout seul, à ce moment-là de la journée, avait un échange, avait un entretien avec son Père. Et il prenait conseil pour la journée. Il s'emplissait les poumons spirituels de l'oxygène du royaume de son Père, pour laquelle il était venu à l'apporter au monde, le diffuser autour de lui. Il se remplissait de cette chose extraordinaire, ce quelque chose qui est céleste, c'est difficile à le définir parce que c'est insaisissable, c'est pas visible et pourtant c'est tellement réel. La présence du ciel sur la terre, en lui. Voilà, alors nous voyons, si on prend maintenant le deuxième, enfin le slide suivant là, en fait je pourrais les commander, je crois moi-même, mais. Ouais. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les foules le cherchaient. Ils ne savaient pas où il avait passé. Et les gens qui étaient là la veille, qui avaient entendu ses paroles, qui avaient vu ses actions, les guérisons en particulier, toutes sortes d'autres choses, ils étaient là, ils se disaient, où est-ce qu'il a passé ? On aimerait le revoir. Ah, il faut qu'il reste ici. On veut le garder auprès de nous. C'est vraiment quelque chose d'irremplaçable. On n'a jamais vu quelque chose comme ça jusqu'à maintenant. C'est de ça qu'on a besoin. Oui, parce que où que Jésus aille, il transportait avec lui cette présence de Dieu. Certains d'entre vous, vous la connaissez, je sais, parce que vous m'en avez parlé quelques fois. D'autres peut-être se disent, mais de quoi il parle ? Eh bien, je souhaite que, dans un moment, vous disiez, j'ai compris. Pas avec ma tête, simplement, parce que ça ne va pas très loin, mais avec le profond de moi, avec mes entrailles, j'ai saisi, je vois ce que c'est. Et ça, je le veux. Et je ne le veux pas juste un jour, je ne veux pas juste pour une prédication du dimanche, même pas pour une semaine de turning, je le veux tout le temps. Je veux être habité par cela. Et pas seulement pour moi-même. Nos chants et beaucoup de choses exaltent beaucoup le moi. Évidemment, en français, c'est plus facile de faire des vers avec la première personne du singulier que du pluriel, parce que c'est moins long, c'est plus ramassé. Mais quand même, nous le désirons, cette présence, non seulement pour notre bien-être, non seulement pour notre paix surnaturelle, pour notre joie, mais aussi pour le communiquer autour de nous, parce que encore une fois, c'est l'objet du désir de toutes les nations. Le Seigneur, encore quelques temps, et il va manifester d'une manière visible l'objet du désir de toutes les nations. Nous sommes pertinents quand nous sommes devenus ce après quoi le monde aspire. Et c'est mon profond désir, enfin c'est le désir que le Seigneur a mis dans mon cœur de manière très forte, que cela se communique à chacun de vous et que personne ne reste à l'écart de cette visitation extraordinaire. Alors, pourquoi les gens le cherchaient ? Et pourquoi voulait-il le retenir? Nous savons par la suite qu'au contraire, il fallait que Jésus aille ailleurs. Mais aujourd'hui, Jésus, il peut être à plusieurs fois, places à la fois. Il n'y a pas besoin de le retenir ici parce qu'on aurait peur qu'il aille ailleurs. Il peut aller ailleurs et il est encore ici. Ou plutôt, nous sommes avec lui ailleurs. Nous sommes avec lui ailleurs. Ça n'a aucune importance parce qu'il habite dans notre cœur. Quand on parle du ciel, il s'agit de quelque chose qui est une réalité qui est dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose simplement, bien sûr, on le représente avec un langage humain, en disant c'est là-haut, c'est dans le ciel. Oui, ça permet de comprendre, il ne faut pas être contre ce vocabulaire qui pourrait paraître un peu primitif. Mais en réalité, il n'est pas primitif, il est très concret et c'est bien. Mais en réalité, le ciel... Il veut habiter ici, à l'intérieur de nous. Et le Seigneur désire que nous soyons des gens qui, en allant à droite et à gauche, ils transportent le ciel avec eux, ou au moins certains aspects du ciel. On ne peut pas avoir tout, hein. Et c'est quelque chose qui nous dépasse. Même Jésus, est-ce qu'il contenait tout le ciel? Je ne sais rien. Mais en tout cas, il avait beaucoup. Et il transportait avec lui cette présence de Dieu, qu'il a appelé d'ailleurs le Père, c'est mon Père et c'est votre Père, c'est votre ami, c'est celui qui veut transformer et qui est en train de transformer votre vie. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que du moment que nous avons fait le pas de la conversion, que nous nous sommes tournés vers le Seigneur à un moment donné de manière consciente, en disant « j'ai saisi cette parole, je vois qui est Jésus, je comprends qu'en lui Dieu me rencontre et qu'en lui Dieu veut investir ma vie pour changer l'atmosphère intérieure et pour changer mon entourage », eh bien dès ce moment-là, cette action du ciel qu'on appelle le Saint-Esprit nous envahit. Ce n'est pas juste un concept. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une réalité qui agit en ce moment même. Tous ceux qui s'ouvrent et qui livrent leur cœur au Saint-Esprit seront exaucés jour après jour, maintenant, dans les heures qui viennent et dans la semaine qui vient et dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Nous serons exaucés parce que nous nous offrons à cette présence. Les gens qui étaient là, qui demandaient que Jésus reste et qui le cherchaient jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, ils ont cherché et ils ont fini par le trouver. Il était derrière des buissons, dans la steppe, peut-être caché sous un rocher pour prier. Parce que quand le Seigneur s'éloignait ainsi tout seul, c'était parce qu'il avait besoin d'un entretien avec son Père et de renouveler cette présence qui était là dès sa naissance, dès le ventre de la Vierge Marie. Parce que le Seigneur, c'est le Fils qui vient du ciel, mais il est né sur la terre, comme n'importe qui d'une femme, et il a marché sur la terre. Alors, il fallait que la jonction soit continuelle, et le Seigneur avait une jonction continuelle entre le terrestre qui était en lui, parce qu'il était terrestre, comme nous tous, et le céleste qui était aussi en lui. Alors ça, c'était son apanage, c'était son privilège. Et il avait besoin que la jonction se fasse tous les jours entre le ciel et la terre, dans sa vie, dans son cœur. Et nous aussi, il veut faire la même chose avec nous. Il nous appelle à faire cela. Vous voyez, ces gens qui le cherchent, et j'espère que nous sommes de ceux-là, ce sont des assoiffés. Ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui est assoiffé. Je ne sais pas comment ça fait. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi tout le monde n'est pas assoiffé du Seigneur. Mais nous devons reconnaître que malheureusement, en tout cas pour un certain temps, dans la vie des gens, c'est comme ça. Les gens sont contents comme ça. Ils disent, oui, moi, ça va. J'ai besoin de rien. Bien sûr, j'aimerais avoir tout l'or du monde, bien entendu. J'aimerais voir tous les spectacles du monde, bien entendu. J'aimerais avoir toutes les femmes du monde, bien entendu. On voudrait tout, mais en même temps, on ne veut pas de Dieu. On dit, non, ça... Ou alors plus tard, quand je serai vieux. Oui, attendons pas, c'est pas sûr qu'on devienne vieux. Puis même quand on devient vieux, ça ne veut pas dire qu'on va avoir la passion du Seigneur. Alors ces gens, ils étaient un peu comme ces orphelins. Je ne sais pas si vous avez été dans des pays de pauvreté, des pays de misère, des pays de guerre, des pays où on néglige les enfants. Quand des enfants rencontrent des gens qui transportent avec eux une affection, un amour, une simple bienveillance, ils le sentent immédiatement. Les enfants qu'on a placés dans des orphelinats, vous voyez, des enfants, on leur donne juste à manger, à boire, mais pas, à peu près rien de plus. ou qui ne mangent qu'un repas par jour, etc. Quand ils sentent quelqu'un qui s'intéresse à eux, qui les aime, ils s'accrochent à leur pantalon ou à leur jupe. Vous avez déjà fait cette expérience ? Il y en a qui ont vécu ça. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois en Afrique, en Asie, etc. Mais chaque fois, je suis extraordinairement touché. Je dis, mais quel besoin ils ont, ces enfants ? Eh bien, ceux qui cherchent le Seigneur, ils sont un peu comme ça, comme des orphelins qui ont besoin. Et dès qu'ils voient un peu d'amour, un peu d'intérêt, d'empathie qui leur est destinée, alors ils sont transfigurés. La joie commence à venir. Alors on dira, oui, mais avec Jésus, c'est normal, parce qu'il faisait des miracles. Alors évidemment, quand vous faites des miracles, les gens, ils s'intéressent, ils veulent tous venir voir les miracles, et puis si possible, en bénéficier. D'accord. Jésus faisait opérer des guérisons, des délivrances, et d'autres choses. D'accord. Mais, alors bien sûr, entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on n'en produirait pas, nous ? Entre parenthèses. On dit Jésus, c'était Jésus, il pouvait. Qui nous dit que nous ne pouvons pas ? Par la grâce de Dieu, en invoquant le nom de Jésus. Est-ce que nous avons seulement essayé de prier en croyant que le Seigneur allait répondre à notre prière, en priant pour des gens ? Je fais juste une parenthèse, je ne vais pas insister là-dessus. Mais au lieu de dire toujours, ah oui, mais Jésus, c'est pas pareil, il faisait des miracles, ben nous aussi. Jésus dit, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez même des plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et le Père va vous exaucer, il est plus puissant que moi. Bon, mais il n'y a pas que les miracles, il n'y a pas que le côté spectaculaire. Il y a aussi d'autres aspects, par exemple, les gens avaient reconnu que quand Jésus enseignait, il enseignait, ce n'était pas comme les rabbins, ce n'était pas comme les docteurs de la loi. Il y avait quelque chose d'autre, ça touchait leur cœur. Ce n'était pas juste des exigences d'un idéal sévère en disant « vous devez atteindre ce niveau ». Non, non, non. Quand il prêchait le sermon sur la montagne, par exemple, à la fin, Dieu sait si ça pourrait sembler exigeant, le sermon sur la montagne, eh bien, il y avait quelque chose dans ses paroles qui faisait que les gens se disaient « ah ». Ce qu'il nous dit, d'un côté, c'est impossible, mais avec lui, on a l'impression que c'est quand même possible. On a l'impression que ce qu'il nous dit, il y a une force dedans. Il prêche avec autorité, il nous est dit. C'est aussi dit, ça c'est dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, on voit Jésus qui est dans une synagogue, il y a un démoniaque qui se révèle, enfin qui commence à avoir des convulsions, à bouger, à crier. Et Jésus chasse cet esprit. Et après, les gens disent, c'est quoi cet enseignement ? Il prêche avec autorité. Parce que ce qu'il dit, ça produit un effet. Ce n'est pas juste des paroles. Même des bonnes paroles. Jésus disait des pharisiens, faites ce qu'ils vous disent. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Il prêche avec autorité. Et il y a encore mieux que ça. Il y a encore mieux que les miracles, et encore mieux que la parole dispensée, c'est le cœur de Jésus. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, lassés, harassés, vous n'en pouvez plus de l'égalisme, vous n'en pouvez plus des conditions de ce monde étouffant, vous n'en pouvez plus d'être déçus par des attentes qui n'ont pas d'effet. Venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Suivez mes instructions. Prenez mon joug sur vous. Il n'est pas lourd, il est léger, parce que je suis doux et humble de cœur. Pourtant, Jésus savait des fois y aller. Hein, quand il chasse les vendeurs du temple, il y a été. Il n'était pas un efféminé. Mais je suis doux et humble de cœur. Même si je suis énergique, même si je dois parfois, rarement, exprimer des paroles relativement sévères dans certains cas, je suis doux et humble de cœur. Et ça, c'est le plus extraordinaire. Ça a été dit tout à l'heure dans les prophéties, dans les chants, la louange. Le Seigneur est d'une qualité absolument unique qui ne se retrouve pas dans le monde. Il est doux et humble de cœur, son fardeau est léger. Je continue. Et le Seigneur veut nous donner ce même cœur, cette même présence, cette même habitation par le Saint-Esprit dans notre, quand nous nous déplaçons au milieu d'autres personnes. Il n'y a pas de témoignage authentique d'évangélisation, sinon par ces qualités qui étaient propres à Jésus. On va prendre encore le suivant. C'est juste, ça va? Oui. Alors, après, il leur dit une nouvelle chose, évidemment. Vous vous dites, ah ben oui, alors d'accord, là, on voit venir Turning. Mais écoutez bien. Il faut, dit-il, que... Ça veut dire que je ne peux pas rester ici, je ne peux pas rester dans votre village ou dans votre ville, parce qu'il faut que j'annonce aussi aux autres villes, aux autres gens, aux autres milieux sociaux, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et nous pourrions dire, eh bien, il faut que nous allions aussi vers ceux qui ne viennent pas ici le dimanche, qui ne viennent pas ici dans des réunions chrétiennes, même pas dans des grandes conventions avec une musique extraordinaire qui boume et qui attire le monde. Il faut que j'aille vers les autres qui n'entreront jamais dans un lieu de culte, qui n'ont aucune idée de ce que nous vivons, nous, avec le Seigneur, qui est quelque chose d'absolument grandiose. Il faut que j'aille parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé sur la terre. Et nous pourrions dire, c'est pour cela que Dieu nous a fait la grâce de nous tourner vers le Père, de nous convertir. Et il nous a convertis et il nous fait la grâce d'être des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles. Enfin, c'est pour notre salut, bien entendu, mais c'est aussi pour le salut de tous les gens qui ne se rencontreront que tout à fait loin des lieux de culte, dans les transports collectifs, dans les entreprises, dans les grandes surfaces pour consommer, dans les lieux de promenade, etc. Jésus a été envoyé sur la terre, pourquoi ? En Israël. Remarquez qu'il n'a agi qu'en Israël. Hein. C'est assez étonnant. Il n'est pas sorti des frontières d'Israël, à part une ou deux petites incursions du côté de Sidon ou au pays des Gadaréniens, comme ça. Mais c'était tout près, c'était pas loin. Pourquoi faire ? Il a été envoyé en Israël pour ensemencer le peuple d'Israël qui avait été préparé pendant des siècles pour l'ensemencer d'un processus de vie qui était destiné au monde. Et pour le faire, non seulement il a prêché, il a parcouru le pays d'Israël, mais il a appelé 12 hommes avec quelques femmes qui étaient là autour et qui subvenaient à certains de leurs besoins. Il les a appelés pour les former, pour former des apprentis, pour que eux, plus tard, quand toutes choses auront été accomplies, y compris la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte sur eux, aillent, eux, ensemencer les autres peuples. Tous les peuples de la terre devaient recevoir l'objet du désir de toutes les nations, devaient recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Et pour cela, eh bien, il a formé 12 personnes relativement faibles. Ils n'avaient rien d'extraordinaire. Oui, il y avait bien Pierre qui avait une forte personnalité, mais les autres, on ne sait pas trop. Il y avait même des repris de justice. Donc, et puis ensuite, un peu plus tard, il en a formé de moins près, mais il en a appelé 70 pour aller un peu plus loin, dans les villages, là où il devait passer, avec l'évangile, avec la bonne nouvelle, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, mais aussi du grec, c'est-à-dire du non-juif, de ceux des nations qui doivent recevoir également. Et nous sommes à la fin de ce temps des nations. Nous sommes en train de, je ne sais pas, ça peut durer encore un certain temps, mais nous sommes en train d'achever la mission presque tous les peuples, en tout cas presque toutes les langues, ont la parole à disposition sous forme imprimée ou sous forme internet, etc. Et la présence de Dieu se manifeste à travers des communautés un peu partout. Alors, je résume. Excusez-moi. Voilà, on va prendre peut-être le suivant. Oui, alors on peut résumer. Excusez-moi si je tourne le dos à ceux qui regardent. Notre Père, donc, si on résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il désire un rendez-vous avec nous dès l'aurore. Dès l'aurore. Pas à 4 heures de l'après-midi, pas le soir seulement, mais encore plus le matin. Un rendez-vous comme Jésus avait les rendez-vous. Deuxièmement, une fois que nous sommes unis à lui, à Dieu par Jésus-Christ, ça passe forcément par Jésus-Christ, nous nous mettons à rayonner de plus en plus de ce quelque chose de céleste qui est la présence du Père dans ses enfants qui commencent à ressembler à leur Père. Et un grand nombre de personnes sont attirées vers Christ au travers de nous, même sans l'avouer. Vous savez, les gens, ils nous regardent beaucoup plus qu'on le croit. Hein. Ils regardent les chrétiens. Ils ne veulent pas l'avouer, mais il y a quelque chose qui les attire. Pas tous, ça c'est un mystère. Mais quand même, beaucoup de gens, plus qu'on ne croit, sont attirés par la présence de Dieu qui est là dans nos cœurs. Et ils se disent, il y a quelque chose, c'est chez Jean, j'aimerais bien connaître. Peut-être qu'ils mettent des années avant de l'avouer. Peut-être qu'ils mettent des années avant de se rendre dans une réunion ou de lire l'évangile ou la Bible que nous lui avons passé pour qu'il ait la révélation. Mais un jour, ça va se montrer. Elles ont besoin, ces personnes, de connaître la source de ce secret. Parce que s'ils ne voient que nos bonnes œuvres, il y a des gens qui disent, oui, il ne faut pas tellement parler, il faut agir, il faut montrer les œuvres. C'est parfaitement juste, on est d'accord. Parce qu'il n'y a pas les œuvres, s'il n'y a pas les actions qui prouvent la présence de Dieu et les qualités de Dieu, ça ne sert à rien, il ne faut même pas s'en mêler. Mais ça ne suffit pas, parce que comment est-ce qu'ils connaîtront la source si on ne leur parle pas, si nous ne prenons pas la peine et l'habitude de leur dire le message? Mais ils ne sauront jamais d'où ça vient. Ils vont dire, ah, mais ces gens, ils sont formidables, ils vont nous idolâtrer. Enfin, peut-être pas, parce qu'on est encore loin du compte, hein, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, ils vont en tout cas peut-être nous admirer, puis dire, ah, mais ces gens, c'est bien ce qu'ils font. Mais ils ne sauront jamais d'où ça vient. Ils ne connaîtront pas le nom de Jésus. Et si vous ne connaissez pas le nom de Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. La première épître de Jean, il est dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Point barre. C'est aussi simple que ça. Donc si nous voulons la vie éternelle, il faut avoir le Fils. Il faut avoir entendu la parole du Fils. Il faut avoir entendu prêcher Jésus. Que les gens sachent ce qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre et qu'est-ce que ça produit. Alors à ce moment-là, s'ils acceptent, eh bien ils ont la source, ils n'ont pas juste le robinet. Parce que si vous avez juste le robinet, un jour, il n'y aura plus d'eau, ça va être frelaté. Tandis que si vous avez la source, vous avez tout. Alors, je voudrais maintenant en arriver quand même un petit peu à Turning. Dans le sens, je ne veux pas m'attarder longuement là-dessus, mais je veux juste... Oui, on va prendre le suivant. Donc, si on veut résumer, on peut dire que la démarche, parce qu'il s'agit d'une démarche, on a dit Turning, c'est pas une méthode. Bon, d'accord. C'est pas les fondateurs de Turning ont dit c'est pas une méthode. On veut pas une méthode, on veut la vie. Ils ont raison, c'est juste. Moi, je suis complètement d'accord. Et effectivement, c'est ça qu'il faut. Mais il faut quand même reconnaître que le script qu'on reçoit, qui nous donne une démarche très simple et très rapide, c'est quand même une sorte de méthode. Il faut quand même, quand même le dire. Et c'est une méthode qui a toute sa valeur, à la condition que ce que je viens de dire jusqu'à maintenant soit pratiqué, à la condition qu'on vive avec le Seigneur dans une intimité très proche, dans une obéissance de foi réelle. À ce moment-là, la méthode est intéressante. Sinon, elle ne l'est pas. Moi, j'avoue, je dis carrément les choses comme ça. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste dans le fait de présenter dans un temps très court, quelques minutes, à peine, les faits suivants. Un, salutation sympathique, souriante, accueillante. Deux, avant que les gens aient eu le temps de réagir, on leur dit « J'ai deux choses à vous dire. » Ah bon ? Un, Dieu vous aime et vous recherche. On ne laisse pas le temps de dire « Oui, mais moi, je ne crois pas en Dieu. » Ou bien « Oui, mais vous dites ça, mais qu'est-ce qui nous le prouve ?» Non, on dit ça. Dans la puissance du Saint-Esprit, Dieu vous aime et il vous cherche. Et puis, il y a la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il a un plan génial pour vous. Et si vous préférez au mot génial, le mot favorable, hein, il a un plan favorable à votre égard. Là encore, on n'attend pas les réactions. On dit... Attendez, voir. Je connais la méthode, mais tout d'un coup, il me semble que... Je risque de manquer quelque chose. Si... Voilà, oui. J'y arrive. Oui. Alors, après, on aborde avec une question. On peut se trouver. Il ne faut pas être esclave de ça, mais c'est quand même intéressant. On aborde la personne en disant, si vous deviez mourir, évidemment, je ne le souhaite pas, au contraire, hein, mais si vous deviez mourir ce soir ou demain, est-ce que vous êtes sûr, à n'en pas douter, que vous allez au ciel et pas ailleurs? Et là, on attend une réponse. La personne va vous dire, éventuellement, elle va probablement vous dire, non, je ne suis pas sûr, non. Ou bien, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non, je ne suis pas sûr. Bon, avec ces deux types de réponses, vous savez que la personne, elle n'est pas née de Dieu. Elle ne connaît pas le Seigneur. Si elle répond à ces deux types, elle ne connaît pas. Elle a besoin de l'évangile en entier. Et puis, si la personne lui dit, ah oui, 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 j'y vais, mais je connais. Ah bon, comment vous le savez? Ah ben, je suis croyant, je crois en Jésus, je sais que j'ai l'assurance. Ah bon, d'accord. Si c'est le cas, ben, évidemment, vous allez vous réjouir. Et puis, vous allez avoir un moment de conversation avec cette personne pour voir où elle en est, est-ce qu'elle fréquente une communauté, etc. etc. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur le premier type de réponse. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez lui dire, avant de vous quitter, j'ai juste encore quelque chose à vous dire. Je vais vous citer trois brèves paroles qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et là, on cite trois paroles qui sont toutes dans l'Épître aux Romains. Romains 3, 23, Romains 6, 23 et Romains 10, 13. Ces trois paroles, ce n'est pas un truc, ce n'est pas magique, mais elles donnent quelque chose d'essentiel. Elles donnent, avec une certaine précision, l'enjeu. Pourquoi ces gens ont besoin d'entendre l'évangile et de croire en Jésus? Et pourquoi nous, on se donne la peine de le faire avec eux? Oui, voilà, c'est là. Hein. Donc, on donne ces paroles-là et ensuite, il va se produire un effet. Maintenant, attention. Moi, il faut prendre une précaution. Parce que, et ça, ça ne figure pas dans le programme Turning, mais moi, j'y tiens beaucoup. Parce qu'il y a des gens dont vous sentez dans l'esprit ou par observation que ce sont des gens malheureux, perturbés, enfermés dans un esprit de rejet parce qu'ils ont beaucoup souffert, déjà peut-être dès leur enfance, dans un milieu familial défavorable, parce qu'ils ont ils sont dans l'insécurité, ils sont dans la souffrance et ils ne vont pas recevoir facilement vos paroles. Si on leur dit, si vous mourrez demain, où est-ce que vous allez? Des gens comme ça, ils mettent les barrières. Ça va avec des gens en bonne santé, ça va avec des gens un peu arrogants qui sont sûrs d'eux, cette parole. Si vous mourrez demain, êtes-vous sûr d'aller au ciel? Ça, ça peut ébranler des gens qui sont bien dans leur peau, mais qui sont peut-être des grands pécheurs, des salopards qui oppriment leur prochain. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. Et si vous sentez que quelqu'un est en situation de presque de désespoir, de faiblesse, de rejet, de solitude, allez-y avec moi je vous dis ça, avec une autre approche qui consisterait par exemple à dire, est-ce que vous savez que votre nom est déjà inscrit quelque part dans le cœur de Dieu? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Ils vont dire non, on ne m'a jamais dit. Est-ce que vous savez que même avant que le monde soit fondé, Dieu avait en réserve un amour pour vous dont vous ne pouvez pas être conscient puisque vous n'existiez pas encore? Est-ce que vous savez que Dieu vous cherche et qu'il a préparé un avenir pour vous auquel vous avez peut-être de la peine à croire et qui est pourtant réel et accessible et vous pouvez l'atteindre? Et on peut citer par exemple cette parole qu'on trouve à la fois chez Ézéchiel 18, mais aussi dans les évangiles, non, pas l'épître, la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 3, qui dit, Dieu ne désire pas la mort du méchant, la mort du pécheur, mais il désire au contraire qu'il change de vie et qu'il vive. Et dans 1 Timothée, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, il veut que tous les hommes. Est-ce que vous êtes dans le tous? Oui. Donc cette parole, elle est pour vous. Dieu veut que vous soyez sauvés et que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas un concept, ce n'est pas des gros livres de philosophie. La vérité, c'est quelqu'un. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. La vérité, c'est aussi ce que dit les dernières paroles de la première épître de Jean, quand il dit, nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ, car c'est lui le Dieu véritable. Jésus, c'est le Dieu véritable. Il n'épuise pas parce qu'il y a le Père, au-dessus de lui, il y a le Père. Mais voilà, la vérité, nous la touchons, nous l'avons par Jésus-Christ. Donc ça, je veux en terminer là, mais on peut dire aux gens, est-ce que, s'ils sont dans un cœur blessé, leur dire, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à dire oui à la vie, finalement? Dieu vous offre cette possibilité. Est-ce que vous seriez d'accord, même sans connaître plus loin, juste de dire, eh bien moi, si c'est vrai, j'en veux, je dis oui. Et si la personne entre dans cette démarche, on peut recrocher ensuite avec les trois paroles de l'Épître aux Romains. On peut expliquer un tout petit peu que le monde a perdu la gloire, les hommes ont perdu la gloire parce qu'ils ont péché, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fichu. Le Seigneur a réparé les choses. Et si nous invoquons, si nous faisons appel à son nom, même en sachant presque rien, avec une foi faible, il va vous répondre, il va vous dire « Oui, je te connais, je t'aime, ça fait longtemps que j'attends ce moment. » Donc ça, je dirais, si on prend cette précaution-là, la démarche, elle est bonne de Turning. Pourquoi? Parce qu'elle décomplexe les gens qui ne savent pas comment atteindre, comment aborder les gens. Moi, ça a été souvent un problème chez moi. Je savais très bien ce qu'il fallait dire, je connaissais le message, il n'y avait aucun problème. Mais des fois, je me disais, mais comment je vais aborder les gens? Si je vais vers eux, puis je commence à leur parler, ils vont dire, mais il est un peu zinzin, ce gars-là, qu'est-ce qui lui prend? Mais en fait, ça nous, la méthode Tornik, elle nous décomplexe un peu de ça, parce qu'elle nous dit, allez, va de l'avant, et tu cites quelques paroles de ce genre-là, ça ouvre le cœur des gens. Vous voyez, évidemment, dans notre entourage habituel, on n'a pas besoin de cette méthode-là, parce que on a le temps de voir les gens, on les voit à longueur de journée, ou en tout cas plusieurs fois par mois, et tout ça, on a le temps de voir venir, et il faut que notre vie parle plus que nos paroles pendant un moment. Ils ont besoin de voir que notre vie parle plus que nos paroles. Mais si on veut atteindre des gens qui sont n'importe qui dans la rue, que vous verrez peut-être qu'une seule fois, que vous allez croiser, qui sont dans une ambiance complètement autre, qui sont complètement étrangers à tout ce que nous pouvons vivre, nous, en Église, alors là, de les accrocher de cette manière-là, en quelques minutes, au point qu'ils soient saisis, eh bien ça, c'est valable, à condition, bien sûr, qu'on est préparé dans la prière. Moi, je m'inquiète un peu que cette année, il me semble que je n'ai pas entendu parler beaucoup de préparation, je n'ai pas entendu beaucoup de prières dans ce sens-là. Je ne parle pas de Lazare spécialement, je parle de ce qui se passe en Suisse romande. Donc, ça doit être préparé à l'avance. Et bien sûr, et nous comptons sur la puissance du Saint-Esprit. Voilà. J'en arrive bientôt à la fin de ce que je vais vous dire. Oui, alors, certains diront, oui, mais moi, je ne me sens pas assez. Moi, je laisse ça à d'autres. Évangélisation, je laisse ça à d'autres parce que eux, ils ont le feu. Bon, d'accord, moi non, je me sens pas prêt. J'ai l'impression de ne pas être assez sanctifié. Je me suis encore disputé avec ma femme, encore hier. Mes enfants, j'ai fait des beufries avec eux, je n'aurais pas dû, etc. Enfin, bref, j'ai raté, quoi. Eh bien, chers amis, j'aimerais vous dire, le Seigneur vous a élu et vous a rempli de son esprit, que vous le vouliez, oui, j'avais presque envie de dire que vous le vouliez ou non, c'est peut-être un peu exagéré, mais du moment que vous êtes tourné vers le Seigneur, il vous connaît, il vous aime, il vous a équipé, il faut simplement lui laisser toute la place. Pas assez sanctifié, oui, bien sûr, évidemment, moi aussi, hein. Je ne suis pas assez sanctifié, bien entendu. Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'offre à la puissance du Saint-Esprit. On dit, Seigneur, j'ai foi en toi. Je ne vais pas me laisser arrêter par les accusations du diable, ni même par mes propres reproches fondés et légitimes. Je vais m'ouvrir simplement à la puissance de ton Saint-Esprit. Tu l'as promis, tu m'as connu, tu m'as visité. Je vais continuer, Seigneur, je crois en toi. Allez-y, avec la foi, et vous verrez que la provision, elle vient. Moi, c'est l'expérience que j'ai souvent fait. Hein. Quand j'allais, par exemple, visiter des musulmans ou des étrangers dans les centres de requérant d'asile, et puis que j'y allais fatigué, oh, je me disais, mince, j'ai pas le punch. Hein. Eh bien, en y allant, ça venait. Et quand j'étais sur place, ça marchait. Et des gens étaient touchés, j'en revenais pas. Ou bien, quand je faisais des week-ends à la Ligue où j'étais fatigué, au commencement des week-ends, j'étais déjà fatigué. Je me disais, oh, c'est pas possible. Eh bien, en cours de week-end, les forces me venaient et à la fin du week-end, je pétais le feu. J'étais super en forme. Ça, c'est des expériences réelles. Donc, ce qu'il faut, c'est faire le pas de la foi et ensuite, on voit que c'est vrai. Et on voit que le Seigneur ne nous a pas lâchés. Mais il faut faire le pas de la foi. Si on ne le fait pas, il ne va peut-être rien se passer. Et même notre santé, ceux qui disent « Oh, mais moi je suis faible, je n'ai pas la santé. » Eh bien, la santé vous est renouvelée quand vous obéissez, quand nous obéissons à ce que le Seigneur nous donne. C'est comme ça qu'on progresse. Car selon le proverbe bien connu, Dieu donne ce qu'il ordonne. Hein? Voilà, je vais m'arrêter là. On va encore prier. Seigneur, nous te remercions. Moi, j'aimerais te remercier parce que même s'il y a peut-être un peu moins d'églises que l'année passée qui s'engagent, j'ai lu qu'il y en avait une cinquantaine, c'est déjà bien. On voudrait évidemment qu'il y en ait 200, mais une cinquantaine, c'est déjà bien, Seigneur. Et même si la préparation, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais nous voulons, dès ce soir, dès l'immersion de ces soirées que nous aurons chaque soir, vivre ce que j'ai prêché au début, ce que Jésus vivait en début de journée pour recevoir le plein d'oxygène céleste, pour recevoir le programme des jours qui suivaient. nous voulons faire la même chose. Nous voulons vivre la même chose ces soirées. Et nous te prions, Seigneur, que plusieurs parmi nous, il y en a qui travaillent professionnellement toute la journée, ils ne peuvent pas, mais il y en a qui peuvent, et je te prie que tous ceux qui peuvent prendre un petit congé, qui peuvent s'engager un matin ou un après-midi avec quelqu'un d'autre pour aller dans la rue, pour aller rencontrer des gens avec l'amour de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, eh bien nous prions que ça se produise et que tous les jours soient couverts par plusieurs envoyés avec une mentalité missionnaire dans le bon sens du terme, avec un amour qui déborde, pas pour faire grossir leur Église, même si c'est un effet souhaitable, mais surtout pour la faire grandir et pour que des gens soient touchés, que des gens soient bouleversés par la puissance de ton amour, par la réalité, et fassent tâche par rapport à la mentalité générale qui est plutôt dans la décadence, qui est plutôt dans le retour à des choses mauvaises. Mais nous voulons trancher, nous voulons faire une différence, et toi tu vas le faire, Seigneur. Et je te prie de bénir abondamment cette semaine avec ces rendez-vous divins qui auront lieu sur les trottoirs, sur les plages, au bord du lac ou dans les lieux de marché. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Alléluia. Amen.